Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En vérité, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé pareille foi. Quel plus beau compliment pouvait faire notre Seigneur à ce centurion qui approchait de lui, tout dans la foi. Notre Seigneur est dans une admiration totale, et il le dit. Et il le dit à ceux qui l'entourent, c'est-à-dire tout spécialement aux Juifs, à ceux eh bien, qui, parfois, doutent de lui. Et il dit, et il le rappelle, que celui-là, eh bien, sans aucun doute, s'il persévère dans sa foi, viendra au ciel, arrivera au royaume des cieux, et non pas tout seul, mais avec beaucoup de païens, c'est-à-dire, dans le langage de notre Seigneur, tous ceux qui viendront du couchant et du levant, eh bien, tous ceux-là seront admis avec Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi ? Parce qu'ils auront eu foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et que les fils du royaume, ceux-là seront parfois, s'ils manquent à la foi en notre Seigneur, seront eh bien, jetés dans les ténèbres extérieures, là où il y a les pleurs et les grincements de dents, à savoir l'enfer. Pourquoi ? Parce qu'il aura manqué la foi. Pourquoi notre Seigneur est en admiration par rapport à cette foi du centurion ? Eh bien, on peut penser que, en plus des paroles même du centurion, c'est surtout dans la position même de ce païen qui s'ouvre totalement à la puissance même de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il n'avait pas les prophéties pour connaître le Christ. Lui, il n'avait pas tout ce peuple juif avec tout ce qui s'était passé de son histoire pour connaître déjà par avance, un petit peu derrière un voile, ce qu'allait être le Messie, qui allait être le Sauveur. Et pourtant, il vient et il demande un miracle à notre Seigneur. Le Christ avait guéri juste avant quelqu'un, à savoir le lépreux. Mais la guérison est tout autre dans celui du lépreux, car elle se fait aussi par un toucher. Le lépreux arrive, il demande à notre Seigneur le miracle, et déjà sa foi était grande. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Voilà déjà une belle parole sur laquelle on peut méditer. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » On peut penser que cela a deux sens. « Si tu le veux », c'est parce qu'il y a une réelle puissance en notre Seigneur et qu'il la reconnaît. Mais néanmoins, en plus, il reconnaît que c'est seulement si le Christ le veut, eh bien, qu'il va pouvoir le guérir. Il se met dans une attitude de retrait et d'humilité. Il n'impose pas, il ne demande pas avec violence ce miracle. Il reconnaît juste en notre Seigneur cette puissance. Et il le laisse libre d'user ou non de cette puissance. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Voilà d'ailleurs un bel exemple de prière ouverte. La prière est toujours une demande faite à notre Seigneur, mais toujours en laissant la Providence agir. Parfois, eh bien, le Seigneur ne nous donne pas gain de cause de la manière dont on aurait voulu, à savoir ce qu'on a demandé, le Seigneur ne nous l'accorde pas dans les faits. Il nous accordera sans doute autre chose et mieux parce qu'on ne comprendrait pas qu'une prière puisse rester inopérante dans le plan même de la Providence divine. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Et avant de dire cela, il s'était prosterné devant le Christ. Il s'était prosterné, c'est-à-dire qu'il avait fait précéder sa demande, toute sa demande d'une adoration profonde. Parce que lorsqu'on se prosterne, on reconnaît eh bien, la grandeur de celui qui est devant soi. Avec le centurion, cela est tout différent. Le centurion dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il y a une humilité fondamentale ici. Parce que le Christ a dit « Je vais venir chez toi et je vais faire le miracle. » Le centurion aurait pu en rester là. Mais son humilité va aller encore plus loin. ils demandent au Christ de faire un miracle tout de suite, juste avec une parole. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent complètement indignes face à celui qui peut faire le miracle de le recevoir chez lui. La vertu présupposée, la vertu fondamentale, lorsque l'on demande quelque chose à quelqu'un, et pas forcément à notre Seigneur, eh bien c'est l'humilité. On doit toujours garder une grande humilité, mais plus spécialement, évidemment, lorsque cette demande s'adresse à Dieu. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il suffit juste de la parole de notre Seigneur. Quelle foi dans le Christ ! Un mot, même à distance, pourra suffire pour guérir son serviteur. C'est reconnaître le Christ dans toute sa puissance. C'est reconnaître le Christ comme la parole, même toute puissance. Et comment celui qui est le Verbe incarné, la parole de Dieu incarné, ne serait-il pas touché que l'on reconnaisse sa toute puissance ? C'est en effet par la parole que tout a été fait, nous dit saint Jean, que tout a été créé. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et on avait dit auparavant que le Verbe était Dieu. Aussi, eh bien, nous pouvons croire en vérité que Dieu a créé et que le Verbe, parce qu'il est Dieu, a créé véritablement. Chacune des trois personnes, dans un agir commun, vont créer. Et le Verbe va être à l'œuvre dans la création, comme le dit très justement saint Jean. La parole de Dieu est créatrice. Mais non seulement elle est créatrice, mais elle va être désormais dans le Christ, recréatrice. Et pour nous aussi, il va falloir eh bien, comprendre cela pour pouvoir en vivre. La parole de Dieu, le Christ, le Verbe incarné, c'est vraiment cette parole recréatrice. Elle va redonner non seulement la santé au corps, comme avec le lépreux, comme avec le serviteur qui souffrait, mais elle redonne surtout la santé de l'âme. Lorsque notre Seigneur dans l'Évangile dit « Va, tes péchés te sont remis », c'est bien l'âme qui est touchée. Ou encore « Ceci est mon corps », c'est bien une parole qui est ici, recréatrice. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu lui-même va toucher l'être de la chose, à savoir l'être même du pain, pour le convertir dans son propre corps. La parole de Dieu est parole efficace. Et nous devons croire à l'efficacité de la parole de Dieu. Nous devons en nous, alors, enraciner cette vertu théologale, dis-je, par laquelle nous croyons en Dieu et en tout ce qu'il nous révèle. Oui, nous devons avoir une foi plus profonde. La qualité de l'adhésion de notre intelligence par rapport au mystère que Dieu a bien voulu nous révéler, eh bien, doit toujours augmenter. Si la foi, eh bien, si par la foi nous croyons tout ce que Dieu révèle, c'est parce qu'il est la vérité même. Aussi, eh bien, nous devons adhérer toujours plus profondément à Dieu vérité. Nous devons croire profondément que Dieu, eh bien, s'est engagé totalement dans ce qu'il nous a dit, qu'il ne peut ni nous tromper, ni se tromper, parce qu'il est la vérité même. En quantité, eh bien, nous pouvons voir qu'il faut croire à tout ce que Dieu a révélé, à tous les dogmes que l'Église nous propose de croire. Beaucoup, malheureusement, à l'heure actuelle, et nous ne le voyons que trop autour de nous, pensent que l'on peut croire telle ou telle chose, laisser tel ou tel autre dans le credo. Or, il faut bien se rappeler une chose, eh bien, c'est que le credo doit être cru tout entier. Tout ce que l'Église nous enseigne doit être cru tout entier. Pour avoir la foi, il faut croire à tous les articles du credo. Pour perdre la foi, il suffit de nier un seul article du credo. Alors, eh bien, pour nous, on peut se dire, c'est facile. La quantité, nous l'avons parce que nous croyons profondément tout ce que l'Église nous dit de croire. Cela, même quand cela parfois pose difficulté, nous y adhérons. D'ailleurs, à la messe, le dimanche, nous chantons le credo et nous le chantons de bon cœur, nous le chantons avec toute notre âme, toute notre intelligence, toute notre volonté. Et je crois que là où il faut insister toujours plus profondément, c'est sur la qualité de notre foi. Et il faut la surveiller. Il ne faut jamais croire que tout va bien dans notre foi. Mais il faut faire croître cette vertu en adhérant toujours plus profondément, toujours plus intensément à tout ce que le bon Dieu nous a révélé. La foi, voyez-vous, peut grandir en intensité. Voilà pourquoi il faut, dans la journée, faire des actes de foi. Parce qu'un jour, peut-être, le bon Dieu permettra qu'une épreuve nous soit envoyée et que si nous ne sommes pas à la hauteur de l'épreuve par notre foi, alors il y aura quelques difficultés dans notre vie chrétienne. Et difficultés parfois graves. Alors augmentons tant qu'il n'y a pas de difficultés notre foi. Demandons profondément au bon Dieu eh bien, d'augmenter en nous cette adhésion à tout son mystère. Adhésion à lui-même qui est la vérité. La foi doit être également vivante. Et pour être vivante, saint Paul, dans son épître aux Galates, nous dit qu'il faut qu'elle agisse par la charité. Le don de la foi demeure en celui qui n'a pas péché contre la foi. Mais sans les œuvres, nous dit saint Jacques, la foi est morte. Privée de la charité, la foi n'unit pas pleinement les fidèles au Christ et n'en fait pas un membre vivant de son corps. C'est ce que rappelle le catéchisme de l'Église catholique. On peut avoir la foi, mais avoir une foi morte. Le jour où nous avons commis un péché mortel, le jour où nous nous sommes séparés de l'amitié d'avec le bon Dieu, eh bien, alors, nous gardons, certes, la foi, mais une foi morte. Une foi qui est désormais inopérante. Une foi qui n'est plus méritoire. Et alors, c'est une foi qui est dans une disposition, dans notre âme, qui est beaucoup plus fragile que lorsqu'il y a la charité. Aussi, nous devons vivre de la charité. C'est pourquoi saint Paul, dans l'épître d'aujourd'hui, nous exhorte profondément à une immense charité. Il nous faut faire le bien, il nous faut vivre en paix avec les autres, et il faut que dans toutes les familles rayonne toujours la paix du Christ, et il faut toujours extirper de notre cœur, nous rappelle saint Paul, le désir de vengeance. Rien n'est pire que le désir de vengeance qui, dans notre cœur, eh bien, va introduire quelque chose de mauvais, un petit poison dans notre âme. Bien au contraire, il faut, nous rappelle saint Paul, triompher du mal par le bien. Et cela est quelque chose de typiquement chrétien. Seuls les chrétiens arrivent véritablement à triompher du mal par le bien. Notre arme, c'est le bien. Il ne faut jamais rendre le mal par le mal. Sinon, on rentre dans une logique eh bien, qui n'est pas une logique chrétienne et qui est une logique qui systématiquement nous détruira. Alors que si nous rendons le bien pour le mal, eh bien, alors nous pourrons grandir. Alors nous rentrons dans une dynamique qui est vraiment la dynamique même du Christ qui pardonne alors qu'on lui fait des injures. Mais pour cela, il faut avoir la foi. Pour avoir le courage de pardonner aux autres, pour avoir le courage d'abandonner toute vengeance, pour avoir le courage de faire la paix et de faire le bien, il faut la foi. Il faut savoir que le Christ nous donne la possibilité de le faire par la grâce qu'il infuse dans notre âme. Il faut croire que réellement, le Christ est présent en tout homme et que tout homme est véritablement notre prochain. Et enfin, il faut croire aussi, comme le rappelle saint Paul, que le jugement final fera justice et que ce n'est pas à nous de faire justice nous-mêmes. Alors, laissons à Dieu le soin d'ouvrir notre cœur afin d'y mettre la charité. Laissons le Christ mettre cette charité qui va nous permettre de pardonner, de faire la paix, d'extirper toute vengeance en nous. Et enfin, laissons le Christ juger à la fin du monde les bons et les méchants. Demandons à Notre-Dame eh bien, de nous transmettre sa foi. Elle qui est mère de l'Église, sans aucun doute, c'est elle eh bien, qui nous dispose profondément à recevoir la foi en le Christ lui-même, en sa toute-puissance, en son intercession. Gardons avec elle cette grande humilité, demandons eh bien, de savoir imiter le centurion, afin que lorsque nous nous approchons de la communion, nous puissions réellement dire « Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir dans mon âme, mais dites seulement un mot et mon âme sera guérie, ainsi soit-il. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.